Quand l'Aude se met à table, c'est sur Radio Marseillette avec les auberges rurales et gourmandes dans le pays d'Aude.
Bonjour à toutes et à tous. Ça va, ça commence bien. À toutes et tous. Aujourd'hui, pour l'Aude se met à table, je reçois évidemment Jean-Paul Escande, l'instigateur, le papa de l'émission, on va dire. Quand tu seras pas là, je sais pas, tu t'en vas quelques temps.
Oui.
Je sais pas comment on va faire. On va naviguer à
vue. Vendredi, hein. Voilà.
On va naviguer à vue.
Je t'ai préparé des vieux de la vieille.
Eh bien, les vieux de la vieille.
Ces deux vendredis, ce qui fait que tout se passera très bien.
Aujourd'hui, on reçoit pas des vieux de la vieille.
Non, nous sommes des jeunes promus, là, aujourd'hui.
Voilà, on reçoit des jeunes diplômés labellisés récemment par l'Association des auberges rurales et gourmandes de l'Aude en Pays Qatar, dont tu es un petit peu le papa, le co-papa, un des papas,
si
on va dire.
Oui, voilà.
Donc, j'ai à ma droite Gilles Fian de la Luciole à Luxeuil-Orbieu.
Bonjour.
Alors, je vous assure, le micro est un animal mort. Il ne va pas vous manger. N'hésitez pas à vous en approcher.
D'accord.
Il va rien vous faire. D'abord, il n'a pas de bras, donc. Et puis pour avec lequel donc on va se mettre à table avec vous. Et puis pour la petite douceur juste après, on ira du côté de la Miellerie des Closes avec Laurent Polony.
Bonjour.
Qui nous a fait le plaisir de venir, pas les mains vides. Et ce que j'ai sous les yeux, j'aimerais bien l'avoir dans la bouche. Il faut le dire comme c'est. Écoute, je pense que
c'est
je suis pas la seule.
Ça.
C'est fait pour ça. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais là maintenant, moi, ce que je veux, c'est me mettre à table, chef. Qu'est-ce qu'on mange à midi?
Alors aujourd'hui, je vais vous proposer des galettes croustillantes de pieds de cochon.
Pieds de cochon du pays Qatar, ça t'aime bien.
Ah, oui.
Oui, bien sûr.
Était besoin de le répéter, c'est ça ou rien. De
à savoir que lors d'un grand concours national qui se prépare, c'est le port du pays Qatar qui a été retenu. Dans le port du pays Qatar, à Pignon-sur-Rue, dans la vie gastronomique parisienne.
Rien que ça. Mais en plus, ça vous parle un peu, non, Paris?
Oui, ça me
et ça
parle.
S'entend
oui,
un peu.
Que, oui, je suis originaire de la région parisienne.
Sur Luc, on retrace deux secondes le restaurant. Comment, quelle est l'histoire du restaurant depuis quand on a la Luciole sur Luc?
Alors, c'est une création qui date de maintenant 2 ans et demi. Donc, je suis originaire de la région parisienne. J'avais deux souhaits il y a très longtemps, il y a de nombreuses années. C'était de venir habiter dans le sud pour échapper à la vie trépidante de la région parisienne et d'ouvrir mon propre restaurant. Donc on a commencé, ma famille et moi, à venir par habiter dans le sud il y a maintenant 9 ans. Et on a donc ouvert le restaurant Auberge, la Luciole, il y a maintenant 2 ans et demi, en lieu et place
de l'ancien café.
Voilà, sur la place du village. Et juste pour un petit historique, la Luciole, c'est pour rendre hommage à mes parents, qui souhaitaient aussi que j'ai un restaurant, qui sont maintenant disparus, malheureusement, et qui s'appelaient Lucien et Nicole, donc la Luciole.
Ah, la Luciole.
Voilà, c'était une manière de les associer un petit peu.
C'est un très joli hommage. Moi, j'avais pensé qu'on faisait rapport à Luc.
Bah aussi.
Mais pourquoi pas. Mais là, c'est un hommage personnel très...
Voilà.
Ah, c'est très, très bien.
Voilà.
Ah, c'est...
Vous êtes ouvert, comment vous fonctionnez?
Alors, nous sommes ouverts à l'année, fermés le mercredi et le dimanche soir. Midi et soir.
Voilà, que ce soit le restaurant comme la structure en entier est associée.
On n'a qu'un restaurant, enfin il n'y a pas de lieu d'auberge. Voilà.
Très bien, d'accord. Et maintenant à table.
Alors maintenant à table. Donc les galettes croustillantes de pieds de cochon. Donc je vais commencer par vous donner les ingrédients pour 4 personnes. Il vous faut donc 3 pieds de cochon. Alors, cru, si vous n'avez pas le temps, vous le verrez par la suite, en termes de cuisson, vous pouvez demander à votre boucher des pieds déjà cuits.
De les préparer, ouais.
Il vous faut un oignon doux de Situ, de préférence, hein, parce que ce qu'on recherche, c'est surtout le goût et pas forcément la puissance de l'oignon. 3 œufs, 3 cuillères à soupe de moutarde forte, 3 cuillères à soupe de chapelure, 3 cuillères à soupe de ciboulette ciselée, du sel, du poivre et de l'huile d'olive.
Maintenant qu'on a tout ça sur la table...
Et une garniture aromatique, composée d'un bouquet garni, donc persil, thym, laurier, 2 carottes, un oignon, une branche de céleri.
D'accord.
Maintenant, vous avez tous les ingrédients.
Et on peut y aller, un peu.
On peut y aller. Donc, vous réunissez dans une cocotte les pieds de cochon, le bouquet garni, la garniture aromatique que vous avez pris soin de préparer. Vous recouvrez largement d'eau, vous salez, vous poivrez, et vous laissez cuire pendant environ, alors c'est un petit peu long, 3 à 4 heures à frémissement. Donc d'où l'intérêt de vous munir de pieds de cochon déjà cuit, si vous le souhaitez, et vous les faites réchauffer dans un court bouillon de la même façon, mais voilà, vous gagnez 2 heures de cuisson. Au terme de ces 3 heures de cuisson, vous sortez les pieds du court bouillon, vous les laissez légèrement tiédir de façon à pouvoir les désosser.
Ah, il faut les manipuler après.
Voilà, donc vous assurez que les chairs soient bien souples avant de pouvoir les sortir du court bouillon. Vous n'hésitez pas à le faire avec les mains, c'est le meilleur moyen pour sentir tous les petits os.
De toute façon, la cuisine en général, c'est bien de patouiller plutôt que de se servir.
Oui.
Au maximum, on évite les outils parce que les mains, c'est bien de, ça fait sentir aussi.
C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit « Chaganté n'attrape pas de souris ».
C'était le dicton du jour. Non, mais oui, on comprend mieux comme ça. Tout à fait.
Donc, une fois que vous avez désossé la totalité de la chair des pieds de cochon, vous la débarrassez, vous la mettez sur une planche à découper, vous hachez finement la chair des pieds au couteau, vous la débarrassez dans un grand saladier, ensuite vous ciselez finement l'oignon, la ciboulette, et vous réunissez dans le saladier donc la chair des pieds de cochon, la ciboulette, l'oignon ciselé, tous les ingrédients, moutarde, chapelure,
les œufs
entiers, sel, poivre. Vous mélangez le tout jusqu'à obtenir un appareil bien homogène, que tous les ingrédients soient bien mélangés. Vous filmez votre saladier, vous le passez pendant 1 à 2 heures au frais, parce que pour façonner ensuite les galettes, il est préférable que l'appareil soit légèrement refroidi.
Parce qu'il y aura un petit peu l'aspect gélatineux qui va faire que ça va se tenir grâce à la chair, ça va empêcher
de coller lorsque vous allez les façonner.
Bien.
Au bout de ces 2 heures, vous ressortez votre appareil, vous munissez d'un emporte-pièce. Alors bon, la taille diffère. Nous, on prend des emporte-pièces d'environ 9 cm de diamètre et vous essayez de confectionner des galettes d'un centimètre à 1,5 cm d'épaisseur.
Pas plus.
Une fois que ces galettes sont confectionnées, vous faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle et vous mettez à rissoler vos galettes sur les deux faces jusqu'à coloration, qu'elles soient bien croustillantes, qu'elles aient un aspect doré. Voilà. Et vous servez 2 galettes par personne accompagnées d'un mélange de jeunes pousses assaisonné d'une vinaigrette à l'huile d'olive et au vinaigre balsamique.
Ça supporte plutôt la crudité que un féculent type pomme de terre ou
c'est une entrée.
Donc ouais. On reste un peu on essaie de faire léger parce que bon quand même c'est une certaine consistance entre la chair les œufs, etc. Il ne faut pas non plus commencer à l'ourdir.
Non, donc vous servez juste un petit mesclin de salade. Vous pouvez y mettre un petit trait de réduction de vinaigre balsamique qui amènera une petite touche sucrée à l'ensemble. Et puis vous vous régalez.
Oh, ça déjà, rien qu'à vous
écouter. J'ai eu la chance de les déguster lors d'un des passages à l'auberge de la Luciole, je vous garantis, ça vaut le détour.
Moi, ce qui me plaît dans cette recette, c'est que le pied de cochon, il a la réputation d'être un pied. Non, et c'est vrai qu'on ne sait jamais trop les amateurs, je veux dire, peu importe.
C'est l'avantage du cochon.
Voilà, mais c'est le.
Dans le cochon, tout est bon.
Il y a rien. Oui, mais tout est bon. Il y a le bon et le beau.
Oui.
Et c'est vrai qu'on a souvent du mal à se dire bon ben à part bouilli et puis à déguster comme ça en salade, voilà, il faut. C'est dommage de pas pouvoir le magnifier et le rendre un petit peu beau. Là, je trouve que le principe.
Ça permet à plein de gens qui hésiteraient à
mettre les doigts et à avoir l'aspect qu'on a dans la salade.
Ça change des pieds vinaigrés, des pieds panés, et ça permet.
C'est ce qui me plaît dans.
Et puis c'est délicieux.
Je n'en doute pas, malgré le fait que bon, personnellement, j'ai jamais trop accroché sur le pied de porc. Ben là, je sais pas.
Mais je vous invite à.
Ben c'est pour ça. Moi, j'ai un petit peu la place privilégiée parce qu'il va falloir que je me fasse un agenda, puisque déjà rien que faire le tour des 24 auberges qui sont labellisées, ben il y a du taf. Et donc bon, non, mais c'est ce qui m'a plu, c'est savoir transformer sans finalement aller chercher des recettes trop alambiquées ou avec des produits qu'on n'a pas sous la main, et pouvoir arriver à faire quelque chose finalement d'aussi beau que bon.
Non, mais c'est très très bien, et en plus c'est présenté de façon très géométrique dans l'assiette. C'est vraiment rien que de voir les galettes arriver avait la verdure autour qui sert plus de garniture parce qu'on mange davantage la galette.
Oui, oui, que là, c'est vraiment.
Mais c'est vraiment quelque chose de très très bien. Alors je voudrais simplement dire que l'emporte-pièce de 7, moi qui suis un 13iste, je dirais, allez, je mettrai l'emporte-pièce de 13.
De 13. Ça fait une sacrée galette, mais
ça fait
sacré bébé, quoi. Aussi, c'est pour les équipes. L'idée de la galette. Pourquoi vous est venue cette idée de présenter une galette
hein. Moi, je suis amateur de pieds de cochon sous toutes ses formes, que ce soit vinaigrette, panée. Mon épouse aimait bien le goût, mais c'était le pied en lui-même. Ouais. Voilà, c'était
c'est
l'aspect.
C'est vrai que c'est à mon avis ce qui doit un petit peu.
Donc c'est un petit peu pour elle que j'ai créé.
Geste d'amour en plus.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Oui, puisque vous travaillez.
Alors on travaille
en petit comité
en famille. Mon épouse est en salle et moi je suis en cuisine avec une de mes filles.
Et dont on dira que la seconde a un petit peu aussi a aidé à développer
voilà,
un petit peu.
On
donc
peut dire que si aujourd'hui la Luciole fait partie des auberges rurales, eh bien on le doit à la fille aînée que je rencontre de façon professionnelle, puisqu'elle s'occupe du développement sur le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie. Et qui m'a dit, mais mon papa, mais ma sœur et ma maman, ils ont une petite auberge à Luc, il faudrait peut-être aller les voir, ça pourrait les intéresser. Et je dois même avouer que je crois que ça, c'est elle qui a été la meilleure ambassadrice pour que Don Gilles et son épouse et sa fille adhèrent aux auberges rurales. Voilà, c'est une histoire de famille.
Ben voilà, de toute façon, tout ce qui est passion, c'est pour ça que moi j'aime bien vous laisser parler parce que la passion fait le reste en général. Ça démarre aussi comme ça.
Mais c'est aussi ma fille qui travaille avec moi en cuisine qui nous a aussi un peu poussé à créer le restaurant. Puisqu'elle a, donc elle a un BEP restaurant hôtellerie, elle a une mention complémentaire en dessert de restauration et elle a représenté la région Languedoc-Roussillon dans des concours nationaux. Elle a fait.
Si elle vous a pas motivé.
Voilà. Donc c'est aussi un peu pour elle qu'on a créé cet établissement.
Et Gilles, avec cette galette, quel serait le verre de nectar
J'y venais.
Que l'on pourrait déguster avec?
Alors, nous on a la chance à Luc-sur-Orbieu d'avoir plusieurs propriétés viticoles de qualité. Donc on travaille bien évidemment avec la totalité des vignerons qui sont implantés à Luc, et on a la chance d'avoir tout près de notre établissement, à 300-400 mètres, un domaine AOC Corbière, qui est le domaine Bérail-Lagarde, et qui font d'excellents vins, que ce soit en rouge, rosé et blanc. Et moi, je privilégie un AOC Corbière blanc.
Un blanc, voilà, comme quoi, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'on disait aussi vendredi dernier, c'est que des fois, c'est des surprises. Des mariages entre une viande qui n'est pas forcément destinée à ce vin-là, et on se dit tiens moi je le suggère, c'est une suggestion.
On a un devoir de conseil, en aucun cas d'obliger, c'est du
conseil de la suggestion, mais on aime bien être surpris, surtout en matière culinaire, se dire tiens, surprenant, je vais essayer.
L'alliance mes vins est un art.
Voilà,
aujourd'hui, comment peut-on, à moins qu'on soit un œnologue ou qu'on ait déjà une grande connaissance des vins de notre département, ça, nous avons 8 AOC. Je crois qu'il n'y a aucun département.
C'est pour ça qu'il faut profiter de la surprise
nous
et de
avons
la découverte.
8 AOC. Et dans ces AOC, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du rosé. Et donc, l'alliance mes vins, mais c'est au chef à pouvoir l'amener sous forme de conseil.
Bien
de
sûr, client
et roi.
Ça reste, voilà.
Mais dans la restauration aujourd'hui, c'est tous les jours que l'on demande, avec ce plat, qu'est-ce que vous nous conseillez?
Et ce cru, il a une particularité? Est-ce qu'il est sec?
Non, c'est un vin qui est fruité, qui est élégant, qui est vif, qui amène justement de la vivacité au plat, qui vient pas le charger, c'est pas un vin lourd, c'est vraiment quelque chose. Donc c'est le domaine Bérail-Lagarde, c'est le Roxestière Vieille Vigne. Et c'est un vin qui a été à maintes reprises récompensé à plusieurs reprises par médaille d'or du concours général agricole de Paris, qui s'est vu remettre en 2009, je crois, le prix d'excellence du concours général agricole de Paris. Et c'est vraiment un vin magnifique, quoi.
Donc en fait, vous avez l'habitude de travailler beaucoup avec tous les domaines dont vous disiez tout à l'heure,
oui.
Que ce soit sur ce plat-là ou sur tous les plats que vous avez à la carte.
Oui, tout à fait.
Bon, ben,
on n'a plus qu'à se
régaler. On rappelle vos coordonnées, donc c'est la Luciole à Luc-sur-Orbieu. On peut téléphoner pour réserver.
Oui, bien sûr, au 04 68 40 87 74. On a une adresse mail aussi si vous souhaitez nous joindre, SARL la Luciole, tout attaché, @aol.com.
Et on vous retrouve également sur le guide
des auberges et sur le site internet.
Voilà.
Et sur le site internet, vous pouvez même retrouver une petite présentation vidéo de notre établissement qui est sur un site qui s'appelle aude-video.fr, qui est un site touristique et pour vocation de faire découvrir des sites du pays d'Aude, qui a été développé par une agence de communication qui se trouve à Trèbes.
Ah, on vous voit partout.
On essaye.
Disons qu'on peut pas trop vous louper.
Ben, on fait en sorte.
En tout cas, on vous remercie d'avoir pris le temps, parce que vous êtes assez pris par le temps, et c'est tant mieux.
Oui.
On est toujours ravis de se dire, ben, je vous laisse, parce que j'ai mes cuisines et mes fourneaux et ma famille qui m'attendent.
Je vais aller rejoindre ma fille en cuisine qui doit m'attendre, oui.
Bon, ben, on vous libère, puisque nous, on va passer aux petites douceurs avec Laurent Polony. Est-ce qu'on peut éventuellement peut-être mettre une petite... publicité, le temps de raccompagner Gilles dans ses fourneaux. Pub ou musique ? À tout de suite. Bon, ben voilà, on sort de table. C'était ce qu'on était en train de se dire. On sort de table et qu'est-ce qu'on va faire ? Si c'est midi notamment, enfin midi, plutôt
deux heures et demie,
parce qu'on aura pris le temps d'apprécier la carte du chef de la Luciole. Et pas très 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 loin de Luc, ben on arrive vite à Montserré. Et à Montserré, moi, ça me tend très bien d'aller visiter la Miellerie des Closes. Et ça tombe super bien, parce qu'aujourd'hui avec nous... On a Laurent Polony, donc vous tenez de main de maître la Miellerie des Closes, et donc on peut visiter quand on veut, mais là à l'occasion d'un après-repas, d'un après-midi, faire un petit peu
c'est incontournable.
Voilà.
Incontournable.
Bon ben voilà, en fait on peut pas.
Tout à fait, de toute façon la Miellerie est ouverte tous les jours, alors que ce soit après le repas. Ou avant le repas, hein, puisqu'en gros les horaires sont de l'ordre de 9h midi, 14h à 18h. Je dis de l'ordre parce que bon, bien sûr, on n'est pas à cheval sur les horaires, quoi. Hein. Bon, surtout en période estivale et en période de vacances où bon, ben les vacanciers sont en vacances, donc ils ont oublié la montre. Et donc bon, alors c'est vrai qu'en période de vacances, on essaye un petit peu de cadrer. Puisque bon, à la Miellerie, en gros, la Miellerie repose sur quatre gros piliers, quoi, hein, que sont bien sûr la production de miel, la transformation du miel, la boutique et l'accueil. Hein, donc, en termes d'accueil, de visite, on va cadrer en saison une visite le matin et deux visites l'après-midi, quoi. Hein.
Donc en fait, il y a aussi une vocation professionnelle d'une part avec le métier que vous faites tout au long de la journée, et puis une partie, j'imagine, visite à vocation un petit peu pédagogique pour celles et ceux qui
tout
le désirent.
C'est le but.
C'est avant tout ça.
C'est pas une simple boutique. Bon, alors après, c'est clair que les habitués, eux, vont venir
se servir directement
dans les rayons.
À la boutique,
mais après, bon, ben, la plupart des gens, on s'aperçoit que bon, hormis savoir qu'une abeille, ça pique et ça fait du miel, ça s'arrête là, quoi.
Ben, c'est vrai.
Donc nous, notre but est d'essayer de sensibiliser un petit peu au rôle de l'abeille dans l'environnement, en plus de la sensibiliser à l'heure actuelle aux problématiques que va rencontrer l'abeille, hein, avec tout un tas de soucis qu'on connaît. Le but étant de faire partager notre passion, non seulement du métier, mais aussi ne pas oublier que l'abeille vit dans un environnement, chez nous, méditerranéen, et bon, le lien aussi avec la discussion autour du patrimoine, qu'il soit naturel, qu'il soit historique, et bien souvent avec certains visiteurs, sur une heure de discussion, on aura parlé à peine un quart d'heure la veille, quoi. Mais bon, l'objectif est que le visiteur soit content, quoi. Il est passé un bon moment. Bon, c'est sûr que la thématique abeille va entraîner beaucoup de discussions.
Voilà, j'allais le dire, parce que justement, on s'attend pas à découvrir, en découvrant, on s'attend pas à toute la palette, non seulement d'activités, mais de tout ce que toute la partie écologie, sensibilisation que ça peut entraîner. D'autant qu'on sait que l'abeille, comme le patrimoine aujourd'hui écologique, que ce soit dans l'Aude ou ailleurs, est sensible et fragile, et bon, je ne vais pas dire en voie de disparition, mais enfin, l'abeille est témoin
Il était temps quand même que l'agriculture réagisse, parce que c'est vrai que...
Oui, mais l'abeille, elle est un petit peu le témoin de... Elle donne l'alerte, en fait. Voilà, mais elle peut donner l'alerte aussi.
C'est l'apiculteur, surtout, qui va donner l'alerte. Hein, parce que, bon, l'apiculteur, lui, bon, ben, il vit grâce à l'abeille. Quoi. Donc, quand il voit son cheptel fondre à vue d'œil, c'est sûr qu'à un moment donné, il s'interroge. Et bon, et il interroge également les autres. Quoi, hein.
Voilà.
Alors, c'est vrai que l'apiculteur... à la possibilité de ne pas aller sur les zones de culture. Hein, bon, la France et tous les territoires ne sont pas faits que de zones cultivées où les agriculteurs inconscients mettent à outrance des pesticides, hein, dont la vocation première du pesticide
c'est
de tuer
c'est
quoi.
Ce
hein.
que j'ai dit tout à l'heure.
Donc c'est pas nouveau si des pesticides tuent les abeilles. Mais entre ces zones où l'agriculture est industrialisée, où l'agriculture est intensive, il existe des zones, on va dire sauvages ou semi-sauvages, les Corbières, le Haut-Minervois, la Montagne Noire, les Pyrénées, il y a des zones où, bon, eh ben, quand on positionne nos ruches, on est à 20 km de la première maison, quoi. Donc, sur ces zones-là, les problématiques sont beaucoup moins importantes. Mais il est clair aussi que d'aller au plus près de certaines zones qui, malheureusement, sont, on va dire, entre guillemets, polluées, ça nous permet d'obtenir certains miels et on a besoin d'une diversité de miel. Hein, quand le visiteur va venir chez nous à la miellerie, s'il voit que deux ou trois styles de miel,
il
va se sentir
aussi,
un petit peu... c'est tout, il n'y a que ça.
Oui.
Bon, alors de notre côté aussi, à l'opposé, quand il y a beaucoup de miel, il est surpris de savoir qu'on puisse faire autant de miel. Enfin, sur la table d'égustation...
Combien il y a de miel, Laurent, à peu près, que tu commercialises?
Alors, nous présentons de l'ordre de 8 styles de miel différents, qui vont varier en fonction des zones de butinage. Et après, il y a 4 miels différents. Alors, c'est pas vraiment du miel, puisque c'est du miel dans lequel on a incorporé du citron, de l'orange. On a un petit peu aromatisé le miel.
Le miel comme on a
mais à ce moment-là, on n'a plus le droit d'appeler
ça du miel.
Même si c'est infime, la partie d'essence naturelle que l'on rajoute.
La base est toujours la matière
la base
première est la même.
99-95% c'est du miel, mais on n'a plus le droit à l'appellation miel. Alors, nous l'avons baptisé Tony Miel. Hein, c'est un produit qui a été inventé à la miellerie des Closes depuis maintenant plus de 25 ans. Le terme Tony Miel était surtout lié au fait qu'au tout début, on commercialisait ce produit-là dans des tubes à destination un petit peu des enfants, hein, facile à mettre dans la poche, et également à destination des sportifs
qui peuvent le consommer.
Bon, alors là, pour la présentation de tube, c'est un petit peu un stand-by. Tout simplement parce que bon, on a un souci d'approvisionnement du tube vide,
hein,
qui va avec la vieille machine que l'on a. Mais bon, on ne désespère pas de retrouver un fabricant de tube qui nous oblige pas à prendre un stock de tubes vides pour 50 ans.
Oui, c'est pas non plus.
Donc bon,
on remettra
le produit. Ça reste toujours dans les tuyaux.
À propos de miel différent, justement, on pense toujours au pot de miel, puisque c'est un petit peu ce qu'on a à l'esprit quand on pense au miel. Mais, d'après ce que moi j'ai sur la table, que vous ne voyez pas et que nous avons le privilège d'avoir sous les yeux...
Il n'y a pas que ça, je crois.
Voilà, en plus, voilà, on s'aperçoit qu'en fait, on peut mettre du miel, mettre du miel dans un petit peu tout.
Voilà, tout à fait. Alors, notre discussion avec nos amis vacanciers, visiteurs qui viennent à la miellerie, c'est de leur faire voir que certes, il y a le miel qui va être utilisé de manière classique le matin, la tartine, hein, mais aussi le miel.
On
peut l'utiliser en cuisine. On peut l'utiliser en cuisine pour aromatiser des plats. On peut l'utiliser pour faire carrément des plats. Avec notre voisin fromager, on va proposer, lorsqu'on va faire des assiettes pique-nique comme ça, un petit peu partout dans le département, on va faire un dessert qui a été mis en place maintenant il y a plus de 30 ans, puisque petite parenthèse, la miellerie existe depuis 35 ans quoi, hein, depuis plus de 35 ans, parce qu'à force de dire 35 ans
donc
depuis plus de 35 ans, une tranche de pain d'épices, du fromage de chèvre frais et un filet de miel par-dessus. Et si vraiment vous êtes dans l'esprit mielleux, vous pouvez y rajouter un verre d'hydromel.
Voilà donc
pour faire
peu, voilà.
Tout
moi,
passer.
J'ai
donc
sous les yeux.
Le miel, on va pouvoir le retrouver donc un petit peu à toutes les sauces, mais également chose qui devient un petit peu également à la mode, c'est l'apithérapie, où bon, eh bien, le miel, grâce à toutes ses vertus antiseptiques, va vous aider bon à soigner, à soulager le traditionnel mal de gorge, mais également des utilisations un petit peu plus surprenantes, pour soigner des brûlures, voilà, pour certaines plaies, ce genre de petites choses-là. Pendant très longtemps, la ruche était considérée comme une véritable pharmacie.
Pharmacie, j'en avais entendu parler.
Alors bon, donc il y a le miel, il y a le pollen, il y a la gelée royale, il y a la propolis, il y a la cire, et il y a aussi, chose un petit peu plus surprenante, le venin de l'abeille.
Quelle va être sa fonction?
Alors certains collègues se spécialisent sur la récolte du venin d'abeille qui va être utilisé pour soulager des problèmes articulaires.
Ah voilà. Ça, d'accord. Bah, comme quoi.
Il paraît que les apiculteurs n'ont pas de rhumatisme. Voilà, alors je l'installe, je cotise à recevoir des piqûres et on verra un peu plus tard.
Non, mais je
si
crois que Laurent, tu as raison, parce que moi j'ai la chance de connaître les apiculteurs qui ont été à la création de ton entreprise et je peux te dire qu'ils sont verts, ils sont bien, ils sont retraités, mais ils ne souffrent pas d'articulation. Je
c'est
crois
pas
que
des tamalous comme on les appelle. Les fameux tamalous. Est-ce que on pense aussi à la branche cosmétique? Parce que là, ça aussi, c'est un...
Alors, le miel va être intégré. Alors bon, dans la branche cosmétique, c'est vrai que les médias et autres publicités vous font part de plein de choses. Ou bien souvent, le mot gelée royale, le mot miel... ils sont dans les produits uniquement, ils sont plus en termes de nom que de composants.
De composants
voilà,
vraiment
voilà.
Aux réelles
vertus. Ce sont des produits qui ont de réelles vertus, mais après, à un moment donné, il faut pas non plus les mettre à toutes les sauces.
C'est pas forcément approprié.
Je vois que, des personnes vantent les mérites de la gelée royale pour les cheveux ou autre.
Pas forcément.
Je reste.
C'est plus une étiquette.
Par contre, la gelée royale est excellente pour la santé, à condition qu'elle soit produite par le producteur. C'est pour ça qu'il existe au niveau national une charte qui va gérer un petit peu tout ça. Et que malheureusement, bien souvent, c'est de la gelée royale d'importation. Rien ne vaut le petit logo, orange et vert, marqué GPGR, groupement des producteurs de gelée royale. Et là, vous pouvez y aller en toute confiance. Sinon, un petit peu à la miellerie. Mais depuis 2 ans, on s'est lancé un petit peu dans cette branche-là, pour soulager des problèmes de peau de ma fille. Mais on a mis en place un petit baume qui est 100% naturel, puisqu'il est composé avec uniquement de l'huile d'olive, de la cire et du miel.
Voilà.
Donc, c'est un excellent hydratant, aussi bien pour les lèvres, pour les mains, pour le visage, pour le corps.
Toutes les zones un peu exposées à nos grands vents du sud.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la propolis. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et quelles sont les vertus de la propolis?
Alors, la propolis est
d'où ça vient dans l'abeille?
La propolis n'est pas très connue, mais sur le plan médiatique, maintenant, elle commence à être un petit peu à la mode.
Oui, mais pareil, mise à toutes
les sauces. La propolis, c'est tout simplement une résine qu'on va trouver sur certains bourgeons, que les abeilles vont trouver, vont récupérer, vont malaxer, vont en faire une espèce de gomme qui va, pour les abeilles, avoir 2 usages. Le premier, c'est colmater, coller, guise de ciment, toutes les petites ouvertures, toutes les petites entrées d'air, surtout à cette époque de l'année où le froid commence à arriver. Les abeilles vont boucher tout ça. Elles vont tout coller à l'intérieur de la ruche. Mais cette propolis a également d'énormes vertus antiseptiques. Et l'abeille va s'en servir pour justement aseptiser l'intérieur de la ruche. L'exemple classique, traditionnel, c'est quand une souris ou un gros insecte rentre à l'intérieur de la ruche, que les abeilles ne peuvent pas le retirer. Dans ces conditions-là, pour éviter que ça dégrade, que ça crée un milieu malsain à l'intérieur de la ruche, les abeilles vont momifier ce corps étranger.
Avec la propolis.
Avec la propolis. Et l'être humain, un petit peu... Parce que l'apiculture, c'est une science très récente. Jusqu'à il y a 50 ans, on savait quasiment rien sur les abeilles. Et donc là, depuis, on est en train de vraiment développer, on est en train de vraiment savoir des choses, d'observer, Et on s'est aperçu donc de tout ça, et l'homme utilise cette propolis eh bien, pour ses vertus antiseptiques, excellentes pour les maux de gorge, pour soulager aussi des plaies, éviter l'infection, pour des mycoses, voilà.
Donc c'est un petit peu tirer les leçons que qu'auront donné les abeilles, c'est-à-dire prendre un petit peu leur, j'allais dire style de vie, non, mais leur justement ce qu'elles utilisent.
Apprendre des abeilles.
Voilà, on le prend.
Disons après, comme beaucoup de choses dans la nature, on va trouver un petit peu
l'inspiration,
tout ce qu'il faut, quoi, pour se nourrir, pour se soigner. Bon, maintenant, il est vrai que bon, beaucoup de choses sont un petit peu marginales. Bon, bon, malheureusement, il y a certains maux de santé et autres qui ne peuvent pas être soulagés avec tout ce qu'on trouve dans la nature. Mais enfin, déjà, pour les petits bobos du quotidien, dans la nature, sans avoir besoin d'ouvrir la pharmacie, on va trouver tout ce qu'il faut, quoi.
Mais tant mieux si on peut s'en passer. Enfin, si on peut reculer l'échéance dans la mesure où les maux sont superficiels, ben tant mieux. De toute façon, ça peut pas faire de mal, comme on dit, hein, donc ça ne peut que faire du bien. Et en parlant de bien.
J'ai amené de quoi ?
Voilà. Ouais. Vous nous avez amené. Alors là, j'ai sous les yeux du miel de garrigue. Alors, c'est un petit pot.
Alors, quand même, petite précision. Quand vous venez à la miellerie, cette partie-là, dégustation, est quand même réservée à la fin de la visite. Parce sinon, les gens, ils se jettent de suite là, parce que la gourmandise, elle emporte un petit peu parfois sur la curiosité.
J'ai l'impression.
Donc, la visite de la miellerie, qui bon, bien sûr, comme je vous parlais tout à l'heure, les quatre piliers, dont l'accueil fait partie de notre fonction. Quoi. On passe du temps avec les gens, et c'est volontaire, et c'est un petit peu dans ce but-là qu'on est rentré dans certaines démarches, comme la démarche Pays Qatar, nous avons été labellisés également qualité Sud France. Donc c'est à cette raison-là aussi qu'on est membre bienvenu à la ferme, que on va adhérer un petit peu à toutes les structures qui puissent garantir un petit peu
la découverte, la pédagogie,
permettre un petit peu d'expliquer, on va pas se contenter uniquement de vendre du miel. Notre fonction, elle est de faire découvrir le miel, et après l'acte d'achat, il va en découler. Bon, donc notre but, c'est faire connaître les produits aux gens, faire connaître notre métier. Quoi.
Et savoir aussi quand on l'a dans l'assiette, comment il est arrivé là.
C'est vraiment ça fait partie aussi
de la dégustation. Enfin, il me semble que ça fait aussi partie du plaisir qu'on a à déguster. C'était qu'on sait vraiment.
Et tu ne dégustes pas de la même façon.
Et non, c'est pas pareil. Voilà, il y a une leçon à prendre.
Donc,
de tout,
quand les gens en arrivent à la table de dégustation, à ce moment-là, bon, voilà, c'est l'aboutissement. Ils comprennent mieux pourquoi sur la table il y a différents styles de miel. Ils comprennent mieux que l'on puisse faire du pain d'épices, que l'on puisse faire de l'hydromel et tout un tas d'autres choses.
Bah justement.
Et un petit sablé, tu parles pas du sablé.
Est-ce que sur la miellerie, parmi toute la palette de produits dérivés à partir du miel, est-ce qu'il y a vraiment 2-3 produits qui se détachent et qui sont consommés le plus
On a, si vous voulez, 3 gros piliers en termes de produits. Il y a le miel, le pain d'épices et l'hydromel. Après, il y a toute une gamme de dérivés, les petits biscuits, des sablés, des bonbons, il y a des savons, il y a des fruits que l'on met à macérer dans de l'hydromel, il y a des fruits que l'on met avec du miel, il y a toute une gamme.
Mais quand on veut découvrir...
Les trois gros piliers sont ça. Miel, pain d'épices et l'hydromel.
Alors, l'hydromel.
Je lui vois une belle médaille.
Voilà. Déjà, je vois qu'il est médaillé d'or à Paris. Alors, je vois médaille d'or Paris 2010 dans le concours général agricole du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. Voilà. Alors, bon, on est juste honoré. Ouais. Donc, de vous avoir avec nous à ce titre-là. Alors, l'hydromel. Moi, on entend tout et un peu n'importe quoi, j'allais dire, sur l'hydromel. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir comment c'est fait l'hydromel.
Alors,
le reste, je me doute. Mais...
L'hydromel, c'est une boisson qui est tout simplement faite avec du miel et de l'eau. C'est une des plus anciennes boissons alcoolisées. C'est plus vieux que le vin, plus vieux que la bière. L'hydromel, miel et eau, fermentent. Et lors de la fermentation, les sucres du miel vont tout simplement se décomposer en alcool.
Transformer en alcool, oui.
Voilà. Donc, c'est la boisson des dieux, c'est, voilà, pendant très longtemps, c'était resté quelque chose de divin. Les hommes, au tout début, ne maîtrisaient pas forcément, ne comprenaient pas forcément cette chimie qui s'opérait. Oui. Et donc, pour eux, c'était assez mystérieux. Bon, déjà, le miel, parce que bon, maintenant, on a toute une pléiade de produits sucrés, mais pendant très longtemps, la seule source de sucre, c'était les fruits et le miel. Et donc, avoir une boisson douce, sucrée, qui en plus de ça vous faisait tourner la tête, ben bon, à l'époque, des Romains, et voire même plus loin, ben c'était assez surprenant. Quoi. Bon, donc nous,
on associe ça plus.
On a, j'imagine que bon, l'hydromel de l'époque romaine est un petit peu différent. Donc maintenant, ben c'est vrai qu'on est dans une région viticole, donc ben.
C'est vrai qu'il a un peu de mal à se faire
le
vin sa place.
Un petit peu plus développé. Voilà. On a un peu calqué les deux. Et donc, on va travailler ça un petit peu comme du vin. C'est-à-dire, bon, en fonction des styles de miel, on va pouvoir obtenir des hydromels différents. Bon, nous, on va plutôt jouer sur la quantité de miel, hein, puisque bon, là, je vous ai amené de l'hydromel doux. Mais nous avons également de l'hydromel sec. Tout d'accord. Simplement, la quantité de miel à la base est moins importante.
Donc vous nous disiez qu'il se travaille un peu comme le vin. Là, enfin, moi, ce que je lis aussi, c'est que c'est vieilli en fût de chêne. Donc on a un circuit de transformation qui est proche de celui de la vinification,
tout à fait,
finalement.
Tout à fait.
Même si c'est pas le même rendu.
Voilà, on le laisse vieillir en barrique. Et puis bon, voilà. Pouvoir le consommer après comme du vin, hein, aussi bien à l'apéritif, voilà. Au cours du repas,
donc on consomme,
à la fin du repas.
C'est j'allais dire, comme un vin de table, l'hydromel.
On va plutôt l'assimiler à une boisson telle que le muscat.
Voilà, donc on beurre soit en apéritif,
voilà,
soit éventuellement en digestif.
Mais
sur un dessert, c'est fabuleux.
Voilà, on a eu fourni à des banquets vers Agde, hein, où bon, là, c'est dans l'esprit gallo-romain, où bon, ben, tout le repas était fait à l'hydromel.
Ah, de l'entrée, enfin, voilà. J'allais dire de l'entrée au dessert, oui, c'est un peu ça, c'était la thématique
fait,
du...
Voilà. Alors bon, il faut, dans ces conditions-là, aimer le côté sucré. Voilà, ouais. Quoi, sucré-salé, mais autrefois, c'était assez fréquent, voilà, d'allier un peu les deux, quoi.
Bon, ben, moi j'en sais un petit peu plus. Bon, le pain d'épices, j'imagine que le miel rentre dans la composition.
Le miel est l'ingrédient principal
du pain d'épices.
Bon, il n'existe pas de véritable norme, hein, puisque bon, vous pouvez trouver dans le commerce des produits qui s'appellent pain d'épices, et le miel, il est absent de la recette. Hein. Donc bon, là, nous, bon, on est parti sur un produit où il y a quand même plus de miel que de farine à l'intérieur. Hein, l'ingrédient principal, c'est le miel. En tant qu'apiculteur, nous, on ne pouvait pas mettre en valeur des produits autres que le miel. Quoi. Donc, alors lui aussi, on va le décliner sous différentes formes. Quoi. Bon, là, c'est le pain d'épices de base, c'est le pain d'épices tradition. Donc, après, on va pouvoir y incorporer des noix du raisin, de l'orange, de la figue, hein, puisque bon, là, le petit dernier, c'est il y a 3 ans de ça, c'est la même pâte de base, le pain d'épices nature, sauf qu'à l'intérieur, on incorpore des figues sèches, hein, la culture un petit peu méditerranéenne, et ces figues sèches, on les a tout simplement mis à réhydrater dans de l'hydromel.
Voilà, c'est un peu trafiqué comme le pain d'épices, dans le bon sens du terme. C'est du pain d'épices un peu pour les grands.
Ah ouais, enfin, mais vous savez, puisque bon, là, je sens sentir un petit peu certaines choses, tout ce qui est à base de miel, ça ne fait pas grossir.
Ah, j'étais loin, en ce qui me concerne.
Mais non, t'es tranquille.
Non, mais je veux dire par là que.
Voilà, donc après, alors bien sûr, c'est sûr que si, pour le petit déjeuner, le matin,
voilà,
vous commencez à finir un pot par matin, là, bon, je peux plus tenir le même discours,
voilà,
quoi, puisque bon, mais. Consommer de manière normale,
c'est pas un mauvais
tous
sucre.
Les produits apicoles ne vont pas vous faire grossir puisque l'organisme ne va pas les stocker en vue de les assimiler. Quoi.
C'est comme le sucre du fruit, c'est un sucre inoffensif qui n'est que bénéfique dans la mesure où on le consomme normalement. De toute façon, c'est comme tout, l'excès.
Oui, il y a un produit, Laurent, que t'as pas parlé, que nous en cuisine on se sert aussi, c'est le vinaigre de l'hydromel.
Voilà, le vinaigre fait partie un petit peu des dérivés, hein, puisque bon, bien sûr, bien souvent on appelle ça vinaigre de miel, mais le terme vinaigre de miel est un petit peu faux.
C'est
vraiment. On veut parler vinaigre d'hydromel, puisque tout produit avant de devenir du vinaigre, il faut qu'il passe par le stade alcool. Voilà. Hein, on ne parle pas de vinaigre de raisin, on parle de vinaigre de vin. Mmh. Voilà, et là, donc, c'est pareil. Quoi. Le vinaigre de miel, ben, pour moi, dans ma tête, quand j'entends parler vinaigre de miel, ça me laisse penser du vinaigre blanc dans lequel on a incorporé du miel.
Voilà,
et c'est voilà, donc, alors que là, nous, c'est le processus, ici, il est inverse, c'est de l'hydromel, hein, dans lequel on a incorporé de la mer et qu'on a laissé travailler là aussi en barrique, on a laissé se piquer pour que les fermentations plutôt acétiques se développent afin d'obtenir ben, un produit à la fois acide et un petit peu sucré qui va très bien aller sur des crudités, sur des fruits de mer, pour relever une petite sauce. Voilà. Après, bon, tous les goûts sont un petit peu dans la nature, et après c'est le talent des cuisiniers et des différents chefs que vous recevez
qui vont
un petit peu nous on va savoir produire, on va savoir mettre en avant certains produits. Après, bon, le rôle du cuisinier, va être de le mettre en musique un petit peu tout ça, hein, tous ces ingrédients qu'il va trouver dans notre région.
On a fait un joli petit tour là.
Comment est-ce que on vient sur réservation? Que nous avons un numéro de téléphone?
Alors la miellerie, comme je le disais à l'introduction, est ouverte tous les jours de l'année.
9h midi, 14h 18h.
Voilà, ça c'est les horaires plutôt donc de la boutique. Et après, bon, plutôt en période printanière et estivale, on vous accueille lors de visites. Alors bon, c'est plutôt 10h30 le matin, 14h30
et 16h,
et le week-end 10h30, 15h, 17h30. Voilà, bon, 16h30. Ça c'est un petit peu plus pour les curieux, les grands curieux. Hein, donc, en plus de ça, en période estivale, on va carrément aller un petit peu plus loin. On va carrément vous prendre par la main et vous accompagner dans la garrigue et vous amener au milieu des ruches, hein, où là, en toute tranquillité, vous allez pouvoir observer et discuter, dialoguer, hein, avec l'apiculteur qui va ben, vous expliquer ce qui fait
dans son milieu,
hein, comment vit une ruche, voilà quoi, hein, donc et là bon en plus de ça pour cette année il y a de gros projets, il y a de grosses modifications positives bien sûr qui vont s'effectuer à la miellerie et donc là je vous inviterai à ce moment-là à venir nous rendre visite
et vous
allez découvrir un petit peu une autre façon de voir notre métier, une autre façon de voir l'abeille.
C'est ce que je lis un petit peu.
On inaugure quand ces nouveaux locaux, là?
Alors déjà pour l'instant bon on est en train en plein travaux, hein, j'ai posé la truelle pour venir. Théoriquement l'objectif c'est ouverture pour
saison
printemps. Voilà. De toute façon, on peut difficilement aller s'amuser à ouvrir les ruches et voir un petit peu en période hivernale. Lors des vacances de Pâques, on pense pouvoir être opérationnel. Quoi.
Bon, moi je rappelle les coordonnées de la miellerie des Closes, dont 8 pêches de la Garrigue, c'est le hameau des Closes, et c'est à Montserré. Donc Montserré, ben, nous loin forcément de Luc.
Pas très loin de l'abbaye de Fontfroide.
Dans le triangle, on est à peu près une vingtaine de minutes de Sigean, une vingtaine de minutes de Lézignan-Corbières, une vingtaine de minutes de Narbonne.
Donc c'est super. Pas mieux placé, touristiquement parlant, et au niveau du patrimoine aussi, vous ne pouvez pas être mieux placé. Laurent Polony, on vous remercie.
On ne saurait terminer tant que Laurent est là.
Avec Jean-Paul.
Par lancer une recette, puisque les fêtes de fin d'année arrivent, les fêtes de Noël, on a parlé du pain d'épices, on a parlé du miel, on a parlé de l'hydromel, on a parlé du vinaigre d'hydromel. Quoi de mieux qu'une tranche de pain d'épices aux noix avec un foie gras mi-cuit, où l'on aura mélangé une cuillère à soupe de vinaigre d'hydromel avec une cuillère à café de miel de garrigue, pour faire petite émulsion, que l'on versera sur le vinaigre, la tranche de foie gras, pardon, que l'on décorera avec un peu de pollen, pour faire amener un petit peu de jaune sur le foie gras, et derrière, un petit verre d'hydromel doux.
Chez qui on pourrait trouver ça, par exemple?
Dans toutes les auberges.